Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Le Domaine du Possible sur Radio Grand Ciel. Tous les mois, nous découvrons ensemble des actions et des acteurs qui participent au changement de notre société. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre espace de travail. Je suis allée rencontrer Claire Delisle et Romain Lejuge pour les interroger sur leur transition professionnelle et prendre le pouls des besoins de notre société. Claire Delisle a créé son entreprise Espace et Temps en juin. Elle conseille en feng shui et géobiologie. Romain Lejuge a créé avec Frédéric Ricou l'Oasis, qui propose un espace de coworking à Chartres, il y a bientôt 2 ans. Tous deux s'insèrent de manière différente dans un monde en mutation. Dans le reportage qui va suivre, ils reviennent sur leur parcours de jeunes entrepreneurs et donnent leur vision du monde du travail.
Bonjour.
Tu as créé ton entreprise Espace et Temps qui propose des conseils en feng shui, en géobiologie, en formation.
Alors, je propose des formations et des expertises en feng shui, en géobiologie et des séances de méditation. Donc, elles sont proposées pour des particuliers, mais j'interviens aussi en entreprise. Et mon intervention dans ces entreprises peut prendre plusieurs formes en appui ou non de mes compétences en communication. Donc les formes différentes, c'est le conseil en aménagement des espaces, selon les règles du feng shui, la détection des pollutions électromagnétiques et puis la pose de remèdes. Et j'interviens également lors de modules ou de formations pour une meilleure compréhension du stress et des émotions et voir ce que ces mécanismes peuvent nous apprendre pour essayer de les utiliser et de moins les subir.
Alors pour plus de clarté, est-ce que tu peux expliquer le feng shui, la géobiologie en quelques mots ?
Alors le feng shui, c'est chaque lieu, chaque habitation a une empreinte énergétique. Et le but du feng shui et de bénéficier de cette empreinte, ou en tout cas de la connaître et de l'utiliser pour qu'elle serve nos objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels. La géobiologie, c'est l'analyse de tout ce qui peut avoir un impact sur notre organisme, sur notre vitalité. Donc il y a la géobiologie naturelle, qui est la détection des cours d'eau souterrains qui peuvent plomber notre organisme, la détection des réseaux telluriques. Et il y a aussi toute l'identification des pollutions électromagnétiques qui sont produites par l'homme, qui ont un impact fort sur nos organismes et dont on entend déjà bien parler avec la multiplication des cas d'électrosensibilité. En fait, le point commun entre ces disciplines, c'est aussi de développer une conscience plus grande de notre environnement et de nos automatismes. Parce qu'en fait, on s'entoure d'objets, on les place dans notre maison d'une manière presque automatique, d'une façon complètement inconsciente. Et le fait de poser un nouveau regard, encore une fois, permet de détecter ces automatismes et de voir d'éventuels blocages. Donc à la façon d'un acupuncteur qui sent un blocage sur un méridien, l'expert feng shui vient, identifie un blocage dans la circulation de l'énergie de votre habitation ou de votre lieu de travail. Et le fait de porter ce regard et d'ensuite de travailler pour que l'énergie circule à nouveau permet de débloquer aussi quelque chose en soi. C'est une façon de faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur.
Thank you.
mais c'est aussi des disciplines qui permettent de redonner de la structure là où il n'y en a plus. Je pense notamment à l'aménagement des espaces de travail en entreprise où le coût de l'immobilier, la nomadisation du travail et l'intégration de nouvelles générations a déstructuré les espaces en fait, de travail. Donc les nouvelles générations préfèrent souvent travailler à la cafétéria plutôt que dans les salles de réunion. Le travail, enfin les salariés sont plutôt nomades, les postes de travail sont occupés à 45% selon certaines études. Et en fait, on a quand même besoin d'avoir sa place en entreprise. Donc comment proposer des espaces qui répondent à cette double demande de nomadisation, de souplesse et quand même d'intégration des équipes. Et comment les équipes peuvent être accueillis au sein des espaces et trouver vraiment véritablement leur place. Et à mon avis, je pense que le Feng Shui peut vraiment donner des bases essentielles d'aménagement et de restructuration qui ont été vérifiées au cours des siècles, adaptées à nos mentalités, à nos modes de vie et qui peuvent permettre de faire également leurs preuves aujourd'hui sur des critères qui ne sont pas purement financiers liés à la gestion des espaces purs et durs.
And I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking. So we're done talking. So let's connect minds past your bedtime. And I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed. You need to be stressed. Don't forget this, you're my apprentice. You need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching. And rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do.
Working together, living together, dying together. Working together, living together, dying together.
You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. You mess up, it's like I messed up, and we both messed up. Just don't be lazy, and don't betray me, cause it drives me crazy. When I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me, and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me, and I won't be happy. I tell you frankly, if I get cranky, then I'll give spankings. So no hanky-panky, you cannot flank me, you don't outrank me.
Working together, living together, dying together. Working together, living together, dying together.
If you don't look good, then I don't look good, then we don't look good. I'm so controlling, I control the whole thing. Stick with me, kid. You slept with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless.
Après Claire de Lille, on écoute Romain Le Juge, président de l'association Oasis, qui explique son parcours de créateur d'entreprise.
Moi, cette envie d'entreprendre existe depuis depuis au moins une dizaine d'années, parce que même étudiant, il y avait quelque chose qui traînait derrière la tête. Elle est sûrement liée à mon parcours et à la vision de l'image de l'entrepreneuriat par mes parents. Le coworking, c'est plus pour répondre à un besoin qui s'est posé à un instant de la réflexion d'entrepreneur, qui était le besoin d'avoir des bureaux. Et d'une autre partie, le fait de ne pas se trouver seul face au fait d'entreprendre. Parce que entreprendre aujourd'hui, même si c'est de plus en plus facilité, c'est quand même un parcours assez compliqué. Entreprendre, c'est prendre des risques. Donc les risques, c'est bien, il faut savoir aussi les limiter. Donc c'est pour ça que la partie coworking est apparue à suite à cette réflexion d'entrepreneuriat avec un ancien collègue qui lui aussi souhaitait entreprendre dans son coin. Et par une discussion informelle un soir autour d'une bière, on s'est posé la question de dire voilà, il existe quoi qui pourrait répondre à ce besoin ? Et on est tombé sur le coworking à ce moment-là. On a lancé un sondage, tout simplement, une page, un formulaire sur Internet. En un mois, on a dû avoir entre 30 et 50 réponses en disant « c'est une bonne idée, ça manque à charte, ces éléments-là ». Et de là est née l'envie et l'idée d'en monter un nous-mêmes à charte.
Ça te prend maintenant tellement de temps que tu n'as peut-être pas le temps de travailler sur ton projet personnel ?
En tant que président aujourd'hui de l'association, et je pense en termes de membre du bureau, puisque avant j'étais que trésorier, mais en tant que fondateur et en tant que président, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, sur le retour sur mon projet personnel, si je reviens en arrière, et j'y réfléchis il y a un an à peu près, que l'aventure de mon projet était posée, ça m'a permis d'évoluer énormément sur la réflexion et sur la façon dont j'envisage le projet. Et au final, le projet ne sera pas du tout le même que celui qui était réfléchi à l'origine. De plus, j'ai eu plusieurs opportunités. Le fait de côtoyer, je pense, cet ensemble d'entrepreneurs, de gens qui voulaient commencer, qui ont déjà un métier, qui ont de ces aimants, ça m'a créé des opportunités. Qui me permettent aujourd'hui de répondre, et je pense que ma création de structure se basera sur cette partie-là par rapport aux opportunités que j'ai eues.
Ça a été un facilitateur en quelque sorte, mais est-ce qu'il y a eu des freins à cette envie de changer, de créer ta boîte ?
Oui, alors des freins, il y en a en termes sur la partie coworking d'un premier temps, puisque une des problématiques, c'est de se faire connaître. C'est de faire connaître l'activité même du coworking, au-delà du fait de connaître l'Oasis, l'association. L'activité de coworking n'est pas encore très répandue. Il y a quand même le rôle du président est quand même aussi celui-là de représenter l'élément, de faire le VRP. Donc ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est un atout. Un des gros atouts, c'est que j'arrive plus facilement. Quand je vends le coworking, je ne me vends pas.
Tu vends l'espace.
Voilà, je vends l'espace et je vends le service, entre guillemets, et le fait qu'on est là pour répondre à un besoin à des entrepreneurs, et je vends surtout tous mes membres. Après, quand on est entrepreneur, on doit croire à son projet, on doit arriver à se vendre. Et je trouve aujourd'hui que ce qui est très difficile, c'est d'arriver à se juger à sa propre valeur et arriver à se vendre à la valeur qu'on veut et ne pas se sous-évaluer ou ne pas se surévaluer sur ce qu'on propose.
Rapidement, ce que propose l'Oasis ?
Alors, rapidement, l'Oasis propose une utilisation donc d'un espace de bureau. Donc, nous, on appelle ça un poste. Donc, un poste de travail qui est une chaise, un bureau où on peut installer son portable principalement, mais ça pourrait être un PC fixe. Et du coup, se connecter à Internet et pouvoir travailler comme on pourrait travailler dans n'importe quel bureau. comme dans un cybercafé qui existait il y a quelque temps, mais j'ai vu que ça avait tendance à bien disparaître, avec une très bonne connexion puisqu'on est sur de la fibre, et la possibilité d'utiliser une machine à café en commun, un micro-ondes, un réfrigérateur et un photocopieur pour photocopieur imprimante pour pouvoir imprimer des documents.
Alors c'est quand même assez récent le coworking. Est-ce que tu as analysé en faisant cette entreprise à quels besoins de la société ça pouvait répondre ?
D'un premier temps, c'était surtout à répondre à des besoins personnels, je dirais, quand on s'est penché sur la question, déjà c'est pas moi du tout qui ai eu l'idée qui est apparue là-dessus, c'est mon collègue. Et d'une manière, après, en retraçant l'historique du coworking, on s'est rendu compte que c'était lié à la colocation.
Partager les frais, ou c'est ça ?
Alors, la naissance est liée à ça. La naissance, c'est né aux États-Unis, où en fait, c'est un ensemble de colocataires, parce qu'il y avait ce besoin de partager des frais, de loyers, et je pense que les loyers étaient très chers, comme dans de grosses capitales. Et du coup, ils se sont dit, à force de vivre ensemble, ils se sont dit pourquoi on ne peut pas travailler également ensemble. Donc, c'était lié à des activités numériques et artistiques aussi. Après, aujourd'hui, je pense que ça va dans une tendance, le terme de co, de faire ensemble, en fait, les choses vont dans une tendance naturelle, parce que je pense qu'on a besoin aussi de refaire de côté communautaire, oui. de lien, mmh. et que pendant un certain nombre d'années, on a une tendance à être dans des activités qui isolaient les gens. Donc on le retrouve par le covoiturage, le coworking, la colocation. Je pense qu'il y a un ensemble de choses, des modèles de co-travail, de projets communs par des tiers-lieux qui peuvent être des Fab Labs ou des choses comme ça. On le retrouve de manière générale, le fait de ne pas faire les choses tout seul.
Projeter maintenant vers demain pour toi,
oui.
Déjà, comment tu te vois, comment tu t'envisages et comment tu envisages après l'évolution du coworking ?
Alors demain, si je me projette et que ça va dans le sens où j'adhérerais, ça serait d'être moi, du coup avoir monté ma structure, de pouvoir travailler au sein d'un espace de coworking, donc celui-ci ou un autre, puisque actuellement on est en temporaire. Qui ait plus de vie en termes de fréquentation, et puis que le lieu, mais ça va venir petit à petit, prenne un côté, un certain caractère, une identité propre, et puis que ça soit vraiment un lieu de vie, un tiers-lieu où qu'on ait envie de se lever le matin pour aller travailler, et que le soir, on ait aussi envie de prolonger une discussion ou un élément. Pourquoi pas après, on va dire, qu'il y ait des affinités sur des activités extra professionnelles, comme des activités sportives ou des loisirs à côté qui puissent être faits. L'idée dès le départ, quand on a conçu le coworking et l'espace Oasis, l'idée c'est d'avoir un vrai tiers-lieu, un lieu de vie. Quand on parle des différentes choses, on souhaiterait par exemple qu'on puisse avoir aussi des associations d'AMAP ou des choses comme ça qui puissent venir. Donc que dans ce lieu-là, on puisse aussi venir chercher, avant de repartir chez soi, son panier, sa cagette de fruits et légumes et ces éléments-là. Voilà, qu'il y ait, au-delà de l'activité de travail propre, de bureau, qu'il y ait cette activité de vie.
D'accord, donc à suivre, nouvel espace.
Voilà.
Merci. Merci Romain. Il s'agit à présent de créer un lieu de vie, un espace de travail à vivre. Comment Claire, qui exerce à faire le lien entre espace intérieur et espace extérieur, envisage-t-elle l'avenir ?
Je voulais terminer en te demandant ce que tu souhaitais pour demain.
C'est une vaste question. Je dirais que dans la continuité de ce que j'ai amorcé pendant cet échange, c'est vraiment le fait d'avoir une conscience accrue sur ce qui nous entoure et sur ce qu'on fait, d'essayer, parce que c'est jamais acquis et c'est un exercice continuel, de couper avec nos automatismes, le fait d'avoir des pensées qui tournent en rond, des jugements un peu idiots qui nous apportent rien, des peurs ou des doutes qui peuvent nous empêcher d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez effarant quand on est en transition professionnelle, parce qu'on a l'impression parfois, enfin moi j'ai pu en tout cas avoir l'impression d'être un peu comme un fakir, où si j'avais conscience qu'il y avait des clous sous moi, je me serais empalée dessus. Donc il faut pouvoir lâcher là-dessus et puis se détacher du résultat pour pouvoir être davantage dans la tentative et oser quelque chose, oser une forme. Et puis si la forme ne convient pas, en essayer une autre jusqu'à ce qu'on trouve un chemin qui puisse se dégager. Et ne pas se laisser embarquer par nos propres doutes, nos inquiétudes, celles des autres aussi. Parce que l'entourage aussi est autant un soutien indispensable, mais peut également être un frein. Et voilà, moi, ce qui m'aura beaucoup appris et qui est vraiment lié à l'enseignement que j'ai eu de Pierre Thirault au 5 Institut, c'est vraiment ça, c'est le fait de lâcher sur des automatismes et d'être dans la tentative plus que dans la recherche de résultats.
Est-ce qu'on peut rattacher ça aussi au fait que la pratique de la méditation est importante dans ton métier ?
Alors, de la façon dont on m'a enseigné, c'est complètement indispensable. Et j'avoue que dans ces périodes de transition, ça m'a vraiment permis de passer des étapes de façon calme, ou en tout cas moins violente que ce qui aurait pu être. Le fait de couper avec la petite ritournelle du cerveau en feng shui, c'est indispensable parce que c'est pas elle qui doit nous guider. Il faut qu'on ait un regard qui soit neutre et qui soit pas le nôtre, mais qui soit celui de l'environnement, du lieu. Et parce que si on veut aider l'autre, il faut pas qu'on ait nos propres filtres. Donc pour cela, la méditation et le fait d'être ancré et dans l'instant présent est un exercice qu'on se doit d'appliquer. On est sur un autre type d'exercice et qui change vraiment quelque chose dans notre posture. Et je pense que c'est vraiment pour du bon.
Merci Claire.
Merci à vous.
Thank you.
Vous venez d'entendre Claire Delisle et Romain Lejuge. Je retiens de ces échanges une vision vivante du monde actuel du travail. Nomadisme, pépinière de talents, tiers-lieux forment des espaces de travail créatifs et changeants. Ils invitent à réfléchir sur leur structure par des outils comme le feng shui pour créer des lieux de vie harmonieux et équilibrés. Je note également à quel point espace intérieur et extérieur sont liés. Vous trouverez plus d'informations sur les projets de Claire et Romain sur le site de Radio Grand Ciel, émission Le Domaine du Possible. Et avant de nous quitter, je voulais partager avec vous les dernières nouvelles des Colibris de Chartres. Vous pourrez nous retrouver, alors le samedi 7 novembre, sur la place du Cygne de Chartres, lors d'un rassemblement pour protéger les tilleuls menacés d'abattage. Rendez-vous à 16h, donc place du Cygne à Chartres. Et mardi 10 novembre, nous présenterons la démarche des incroyables comestibles en salle des fêtes de Luisan à partir de 18h, après la remise des prix des maisons fleuries. Et pour nous, nous nous retrouvons le mois prochain sur Radio Grand Ciel dans l'émission Le Domaine du Possible, où il sera certainement question de disco soupe. Au revoir et d'ici là, portez-vous bien.
Finest ever made. Crafted pride by monsters of the trade. The world screams circus. We have this story of the impossible. A tale best also. Impossible, a tale.